Et Dieu vit que cela était bon. Pour mettre en résonance le texte biblique de la création du monde avec le discours scientifique sur l'univers. Une émission proposée par Ivar Drouel.
Nous voici au cinquième jour de la création du monde, tel que le raconte ce premier chapitre de la Genèse écrit il y a près de 3000 ans. Le cinquième jour nous place au cœur de l'explosion du vivant. Ce miracle de la vie qui est comme la marque de la planète Terre. Dans les mers, sur Terre et dans les airs, le vivant est là. Et il présente une diversité de formes, de tailles, de couleurs, avec une inventivité de fonctions pour se déplacer, se nourrir, se reproduire, incroyable. Comment ne pas partager cet émerveillement ? On avait, au troisième jour de ce poème biblique, reçu le don du monde végétal, l'exubérance des forêts, l'abondance des graines et la promesse de ses fruits. On découvre maintenant le panorama du vivant. Chaque espèce est reconnue, identifiée avec ses caractéristiques. Aucun être n'est oublié, même les monstres sont cités. Très tôt, dans l'histoire de l'humanité, on a cherché à décrire, à classer, à répertorier cette diversité des êtres vivants, plantes et animaux. Le philosophe Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, réalise une analyse puissante des espèces. Et le Suédois Linné, au XVIIIe siècle, élabore une classification dont on utilise toujours les principes. Depuis toujours, le vivant fascine. Écoutons le texte avec nos yeux grands ouverts. Dieu dit que les eaux fourmillent d'un fourmillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre à la face du firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants et remuants dont fourmillent les eaux, selon leur espèce, ainsi que toute la gent ailée selon ses espèces, et Dieu vit que c'était bien. Dieu les bénit. Proliférez, dit Dieu, remplissez les eaux marines et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Escher, ce peintre original, a gravé sur bois en 1926 la représentation des six jours de la création. Et pour le cinquième jour, il présente le monde des airs et des oiseaux sur fond blanc et celui de la mer sur fond noir. Une opposition qui renforce paradoxalement la grande unité des animaux représentés. Tous différents, mais en harmonie. Tous bien identifiables, pas de superposition, aucun ne se cache, ils sont tous là, offerts à notre regard, libres et immobiles. Et qu'allons-nous écouter ? Elles sont nombreuses les musiques qui parlent de la beauté et de l'importance du vivant. Que ce soit dans la musique classique ou dans les chansons de notre temps, les compositeurs sont nombreux. Je vous propose « Chant d'oiseaux » d'Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, né à Avignon en 1908, est un grand compositeur, organiste et pianiste français. Il a été fasciné par les chants d'oiseaux. Il notait avec une extrême précision leurs chants et leurs gazouillis, et cela lui a permis de développer un langage musical très singulier. Comme personne avant lui, il a réussi à capturer la richesse virtuose de ces princes du ciel. Écoutons. Petite esquisse au piano, écrit en 1985. Thank you. entre des accords très colorés, le pianiste a déployé une mélodie complexe, atonale, au rythme accidenté. Pour comprendre cette musique imprévisible, il faut quitter le monde des humains et se rendre en forêt. Et il n'a pas oublié les oiseaux exotiques, oxylophones, toujours d'Olivier Messiaen. Olivier Messiaen est un compositeur chrétien qui a laissé une œuvre monumentale. Il est mort en 1992. On retrouvera sa musique un peu plus tard, au septième jour. Les scientifiques nous avertissent, on le sait. Le monde des oiseaux disparaît peu à peu, sans bruit, mais en masse. Dans les jardins de nos villes, les parcs, il y en a encore bien sûr, mais on connaît de moins en moins leurs noms, on reconnaît rarement leurs chants. Quand avons-nous vu une hirondelle ? Comme les philosophes de l'Antiquité, comme les sages de l'Orient, les poètes de toutes les époques, les chercheurs de notre temps interrogent la richesse du vivant. Le monde moderne a créé un mot pour dire ce foisonnement de vie qui tisse notre planète bleue. Ce mot, c'est celui de biodiversité, et des sciences comme l'écologie, la zoologie, la botanique sont là pour la décrire et chercher à comprendre son fonctionnement. On sait maintenant que les espèces ne sont pas figées et que le vivant évolue. Il y a bien encore des mouvements obscurantistes comme les créationnistes aux États-Unis qui prennent à la lettre ces textes de la Genèse et se privent de toute leur beauté poétique et de leur sagesse puissante. Ils croient à une institution des animaux telle qu'on les observe maintenant et sans rire, ils pensent que Noé a bien construit, comme le raconte la Genèse, une arche en bois pour y mettre tout le vivant, y compris les dinosaures. Car ce vivant est en mouvement et en transformation. Cela n'enlève en rien à la beauté de ce texte du cinquième jour. Au contraire, ce texte est une invitation pressante à regarder cette richesse qui est là. C'est un appel à prendre conscience de l'importance du monde vivant. Et cette conscience est nécessaire comme jamais, car la biodiversité sous nos yeux s'effondre. Pour la sixième fois, une extinction du vivant est en cours. À chaque extinction, la plus connue est celle du monde des dinosaures, provoquée en partie par la chute d'une météorite il y a 60 millions d'années. 60 à 90% des vivants disparaissent, et puis progressivement, l'expansion du vivant repart, encore plus forte, plus riche, plus diversifiée. La particularité de la crise en cours, c'est sa rapidité. Décennie après décennie, des espaces disparaissent, on voit des populations se réduire, et la cause se révèle, on le sait, une activité humaine prédatrice, une logique d'exploitation débridée, poussée par la recherche du profit, par l'ignorance aussi, et le mépris du vivant parfois. On permet les néonicotinoïdes qui détruisent les abeilles, indispensables à la fructification des arbres fruitiers, simplement pour garantir le profit de quelques riches producteurs de betteraves. L'inconscience de nos actes, avec le mépris de certains, condamne des millions d'espèces. Et si en effet la disparition du tigre du Bengale ne met pas en péril les sociétés humaines, ce n'est pas le cas de la disparition des insectes pollinisateurs et des vers de terre qui fertilisent nos sols, et des planctons à l'origine de nombreuses chaînes alimentaires. Allons au Collège de France. Écoutons quelques extraits de leçons inaugurales récentes. Le Collège de France a été créé en 1530 par François Ier pour offrir gratuitement et à tous le savoir et la connaissance. Aujourd'hui encore, cette institution permet aux chercheurs les plus expérimentés de partager largement leurs recherches et leurs réflexions. La biodiversité est en crise. C'est le point de départ de la leçon inaugurale au Collège de France d'Emmanuel Porcher, le 18 janvier 2024.
La planète est en crise, une crise dans le fonctionnement de son climat, une crise dans le fonctionnement de la vie qui l'habite. Les deux sont intimement liés et sont causés par une seule espèce, l'espèce humaine, la croissance très rapide de sa taille de la population et de son niveau de vie, toujours plus exigeant en ressources. Cette empreinte de l'espèce humaine sur la planète peut se visualiser, y compris depuis l'espace, de nuit, ici, avec la pollution lumineuse. Au milieu de ces crises, les insectes, un groupe qui peut paraître insignifiant, depuis les années 90, mais plus encore ces dernières années, un certain nombre d'articles, y compris dans des médias généralistes, alertent sur une diminution rapide et massive de leur abondance. Ici, le New York Times, plus près de nous, The Guardian ou encore Le Monde. Ces articles émanent de publications scientifiques qui ont déclenché, par exemple, cette alerte de l'Académie des sciences en 2021. Les mots utilisés sont très alarmants. On parle ici d'apocalypse, de catastrophe ou encore d'extinction. Pourquoi est-ce que cette situation doit-elle nous inquiéter? Parce que les insectes occupent une place centrale dans le fonctionnement de la planète. Ils sont omniprésents dans les milieux terrestres et ils y jouent des rôles très importants. D'une part, ils sont un groupe avec une très grande diversité. On estime qu'il y a entre 3 et 8 millions d'espèces d'insectes sur la planète, dont seulement 1 million sont actuellement connues, ou un peu plus d'un million. Et ce un peu plus d'un million représente plus de la moitié des espèces vivantes que nous connaissons actuellement. Ces insectes sont la source de nourriture pour de nombreux animaux. Ils contribuent au recyclage de la matière organique. Ils contrôlent beaucoup d'espèces animales ou végétales. Et c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Ils sont indispensables à la reproduction de la majorité des espèces de plantes via un processus appelé pollinisation.
Pensons le vivant autrement. C'est le thème de la conférence inaugurale de Virginie Courtier. Écoutons.
Je souhaite développer plusieurs pistes pour penser le vivant autrement. La première est de reconnaître l'importance des interactions à multiples échelles et les interdépendances qui sous-tendent le vivant. Nous, humains, ne pouvons pas vivre sur une autre planète ou dans un milieu dépourvu d'autres êtres vivants. Si la vie a pu perdurer sur la Terre depuis si longtemps, c'est notamment grâce à tous ces échanges entre organismes vivants. Et nous sommes tous des assemblages d'éléments disparates, des mosaïques. Deuxièmement, il faut sortir de la métaphore de la machine et prendre en compte le fait que les organismes dérivent d'un processus historique. Il n'y a pas de début à la vie d'un être vivant. Nous sommes tous les extrémités d'un long lignage vivant qui existe depuis plusieurs milliards d'années. Troisièmement, il est important d'admettre que la nature suscite chez de nombreux humains l'admiration, l'émerveillement, le respect, l'apaisement. Et ce n'est pas parce qu'il est difficile avec nos méthodes scientifiques d'appréhender et de quantifier cette caractéristique importante de la nature qu'il faut la négliger. Ces propositions pour penser le vivant autrement n'ont pas à elles seules l'ambition de résoudre la crise de la biodiversité, mais d'aider à atteindre une meilleure compréhension du monde vivant.
La biodiversité est fragile, mais elle renaît dès qu'on lui donne un peu d'espace et d'attention. Magnifique espérance.
Pour conclure cet exposé, je voudrais terminer sur une note d'espoir. Certes, nous savons que la biodiversité, dont les plantes et leurs pollinisateurs, sont en train de changer massivement et rapidement dans une dynamique qu'on peut qualifier d'effondrement. Mais nous savons aussi qu'il existe des solutions pour contrecarrer cet effondrement. Et avec nos collègues, nous travaillons d'arrache-pied pour essayer d'améliorer ces solutions, soit sous l'angle de l'écologie ou pour d'autres personnes sous l'angle des sciences sociales. Et tous les espoirs sont permis, parce qu'un des gros avantages du vivant, notamment par rapport au climat, c'est que le vivant peut réagir de façon spectaculaire. Pour le climat, nous savons que les solutions à mettre en œuvre, qui sont indispensables, ne porteront leurs fruits que dans quelques années, voire dizaines d'années. Au contraire, le vivant existe depuis près de 4 milliards d'années et il a été sélectionné pour faire face à des changements de son environnement s'il reste suffisamment modeste. Il suffit donc que nous lui redonnions un peu d'espace et un peu de temps pour que la vie puisse à nouveau prospérer. Et la recherche en sciences de la conservation le démontre sans ambiguïté. Laissez une partie de votre jardin évoluer librement en arrêtant les pesticides et vous verrez les papillons et tous les autres insectes revenir. Convainquez les jardiniers de l'école de vos enfants ou du parc public à côté de chez vous de diminuer les tontes. Laissez une partie des pelouses se transformer en prairies et vous verrez revenir les orchidées. Arrêtez d'empoisonner les vautours, laissez les trouver de la nourriture et vous verrez des centaines d'oiseaux au vol majestueux dans le ciel. Agissez pour réduire l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Achetez des produits locaux venant de petites exploitations. Et dans les espaces agricoles pourront revenir les insectes, les plantes, les oiseaux et toute la diversité du vivant. Il n'est pas trop tard. Quelques espèces ont déjà disparu, mais beaucoup sont encore là. Nous pouvons encore réparer les dégâts que nous avons commis.
On sait que le sixième jour, Dieu va proposer à l'humanité de s'intégrer à cet univers qui déborde de vie et va lui confier la tâche d'y être son gardien. On sait que l'humanité n'aura pas toujours la sagesse de respecter ce don qui lui est fait. Mais ne brûlons pas les étapes. Le cinquième jour est un hymne à la vie. Puisse-t-il résonner en chacun de nous ? Et écoutons le Créateur nous murmurer à l'oreille « Oui, regarde et comprends comment cela est bon. » Louis Armstrong le chante magnifiquement.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
J'aperçois des arbres verts, quel monde merveilleux. Une célébration de la beauté du monde qui nous entoure. Et le sixième jour de la création nous attend. À la semaine prochaine.